Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Plus malin que le diable » est un ouvrage de développement personnel de Napoléon Hill. Conçu sous la forme inhabituelle d'un entretien allégorique entre l'auteur et le diable, rédigé à la fin des années 1930 et publié bien plus tard, le livre prolonge les préoccupations de Hill sur l'ambition, l'autodiscipline et les causes psychologiques de l'échec. Le diable n'y doit pas nécessairement être lu comme une figure religieuse littérale, il représente les forces qui détournent l'individu de ses intentions, notamment la peur, l'indécision, la procrastination, la colère et l'influence du conformisme. Il cherche à montrer que la liberté personnelle dépend moins de circonstances extérieures que de la capacité à diriger son attention, ses habitudes et ses choix. L'ouvrage propose ainsi une critique de la passivité mentale et une méthode générale pour construire une existence orientée par un but précis. Son style provocateur, marqué par son époque, appelle une lecture critique, mais sa question centrale demeure actuelle qui gouverne réellement nos décisions quotidiennes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le diable comme métaphore des mécanismes d'auto-sabotage. La singularité de plus malin que le diable tient d'abord à son dispositif il interroge le diable afin de faire apparaître, sous une forme directe et provocatrice, les mécanismes qui limitent l'action humaine. Cette figure incarne moins un personnage autonome qu'un ensemble de tendances psychologiques, céder à la peur, remettre à plus tard, suivre l'opinion dominante ou agir sous l'effet d'émotions mal maîtrisées. Ce choix narratif permet à Hill de rendre visibles des habitudes ordinaires que l'on rationalise facilement. Le problème n'est pas seulement de manquer de talent ou de ressources, mais de laisser ses pensées se former sans examen conscient. L'auteur associe cette disponibilité passive à une perte de maîtrise. L'individu réagit aux événements au lieu de les interpréter et d'y répondre selon une direction choisie. La métaphore a aussi une fonction morale. Elle évite de réduire l'échec à une fatalité extérieure tout en rappelant que les obstacles intérieurs peuvent prendre une force considérable lorsqu'ils deviennent des routines. Une lecture contemporaine gagnera à distinguer la mise en scène symbolique des affirmations littérales du texte. L'intérêt durable du procédé réside dans son invitation à repérer les formes concrètes d'auto-sabotage avant de chercher des solutions exclusivement extérieures. Deuxièmement, la dérive mentale ou le coût d'une vie sans objectif défini. Au cœur du livre se trouve l'idée de dérive mentale, souvent comprise comme l'absence de direction personnelle ferme. Pour Hill, une personne qui ne définit pas clairement ce qu'elle veut tend à être guidée par les urgences, les attentes d'autrui, les distractions et les circonstances. Elle peut rester très occupée sans progresser vers un projet qui lui appartient réellement. Cette notion ne condamne pas l'exploration ou les changements de trajectoire. Elle vise plutôt l'indécision prolongée, lorsque l'on évite de choisir pour ne pas assumer les risques d'un choix. Hill oppose à cette dérive un objectif principal clairement formulé, soutenu par un plan et par des actions répétées. Le raisonnement est pratique un objectif précis, fournit un critère pour sélectionner les tâches utiles, écarter certaines sollicitations et mesurer les écarts entre intention et comportement. Il ne garantit ni richesse ni résultat automatique, contrairement à certaines promesses associées au genre, mais il réduit la dispersion. Le livre insiste également sur la responsabilité personnelle liée à cette orientation. Définir un cap suppose d'accepter que les décisions imparfaites soient préférables à une passivité durable. Cette thèse explique pourquoi Hill traite la clarté d'intention comme une forme de liberté. Elle aide à ne pas laisser les peurs et les influences extérieures décider à sa place. Troisièmement, la peur, la procrastination et les émotions réactives comme instrument de paralysie. Hill analyse la peur comme un facteur qui déforme l'évaluation des situations et empêche l'initiative. Il évoque notamment des peurs liées à la pauvreté, à la maladie, à la critique, à la solitude, à la vieillesse et à la mort. Quelles que soient les réserves que l'on peut avoir sur cette classification, son idée principale est claire, l'anticipation d'une menace peut occuper l'esprit au point de rendre l'action plus difficile. La procrastination est alors présentée non comme une simple mauvaise gestion du temps, mais comme une stratégie d'évitement. Reporter une décision permet de ne pas affronter temporairement l'incertitude, la possibilité de se tromper ou le jugement d'autrui. Hill associe aussi la colère et la jalousie à cette perte de direction. Ces émotions peuvent déplacer l'énergie vers la comparaison, la revanche ou la réaction immédiate, au lieu de la consacrer à une tâche choisie. L'enjeu n'est donc pas de nier toute émotion négative, ce qui serait irréaliste, mais de ne pas leur déléguer la conduite des décisions importantes. Une application raisonnable de cette analyse consiste à identifier les situations déclencheuses, à différer les réponses impulsives et à découper les actions redoutées en étapes réalisables. Le livre valorise ainsi la vigilance psychologique comme condition d'une action suivie. Quatrièmement, l'autodiscipline relie les intentions aux habitudes observables. Dans la perspective de Hill, l'autodiscipline n'est pas une austérité abstraite. Elle est le moyen de transformer un désir en comportement régulier. L'auteur insiste sur la nécessité de maîtriser son attention, son corps, ses pensées et ses réactions afin que les décisions servent un objectif plutôt que les impulsions du moment. Cette idée donne au livre une dimension concrète. Vouloir changer ne suffit pas si les habitudes quotidiennes continuent d'entretenir la dispersion, l'évitement ou la dépendance à l'approbation extérieure. Il met donc l'accent sur la répétition, la persévérance et l'examen honnête de ses propres conduites. L'honnêteté envers soi-même est essentielle, car un plan ne peut être ajusté que si l'on reconnaît les écarts entre ce que l'on affirme vouloir et ce que l'on fait effectivement. Cette approche a des limites, elle peut sous-estimer les contraintes sociales, économiques ou de santé qui affectent les possibilités d'action. Néanmoins, elle conserve une utilité lorsqu'elle est appliquée sans culpabilisation. Le lecteur peut y voir une invitation à distinguer ce qui dépend de lui, à structurer ses engagements et à créer un environnement favorable à ses priorités. La discipline devient alors moins un trait de caractère, supposé qu'un ensemble de pratiques capables de rendre l'action plus fiable. En dernier lieu, échec, entourage et harmonie, une vision relationnelle de la progression. Plus malin que le diable ne réduit pas la progression à la seule volonté individuelle, il accorde une place importante aux leçons tirées de l'échec, au choix de l'entourage et à la recherche d'une forme d'harmonie entre les objectifs, les valeurs et les relations. L'échec n'est pas valorisé pour lui-même, il devient utile lorsqu'il produit une information sur une méthode, une décision ou une préparation insuffisante. Cette conception invite à remplacer l'autocondamnation par l'analyse puis par une correction concrète du plan. Le choix de l'entourage complète ce travail. Il considère que les fréquentations, les idées partagées et les normes du groupe influencent fortement les attentes que l'on juge possibles ou acceptables. Son propos ne justifie pas l'isolement ni le rejet des personnes en difficulté. Il souligne plutôt la nécessité de rechercher des relations qui favorisent la lucidité, la responsabilité et l'effort. Enfin, l'harmonie désigne une cohérence durable plutôt qu'une excitation passagère. Un objectif poursuivi contre ses convictions ou au prix d'un déséquilibre permanent risque de nourrir la frustration et l'abandon. Cette dimension nuance le discours strictement financier, souvent associé à il. La réussite est aussi présentée comme une capacité à maintenir une direction compatible avec son équilibre personnel et ses engagements envers autrui. En conclusion, Plus malin que le diable s'adresse surtout aux lecteurs intéressés par les classiques du développement personnel, par la psychologie de l'habitude et par les obstacles qui entravent l'exécution des projets. Il conviendra particulièrement à ceux qui connaissent déjà Réfléchissez et Devenez riche et souhaitent découvrir une version plus sombre, plus critique et plus théâtralisée de certaines idées de Napoléon Hill. Son bénéfice pratique ne réside pas dans une recette garantie pour obtenir la richesse. Il réside plutôt dans un cadre d'auto-examen clarifier un objectif, observer ses comportements d'évitement, évaluer l'influence de son environnement et convertir les revers en informations utiles. Le lecteur doit néanmoins conserver une distance critique face aux généralisations de l'auteur, au vocabulaire spirituel et au contexte intellectuel des années 1930. Certaines causes de l'échec dépassent évidemment la seule force de volonté individuelle. Comparé à beaucoup de livres contemporains du même genre, l'ouvrage se distingue par sa forme dialoguée et par la personnification des forces de dispersion. Là où un guide classique se contente souvent de prescrire des habitudes, il met en scène le conflit entre la direction consciente et la passivité. Cette construction rend ces thèmes plus mémorables et pousse à interroger les compromis invisibles qui organisent le quotidien. Lu comme une allégorie exigeante plutôt que comme une doctrine littérale, le livre offre une réflexion utile sur l'autonomie mentale, la responsabilité et la persévérance. Si vous souhaitez soutenir Napoléon Hill, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.